François-Olivier Dorin, rédacteur web pour le magazine Affaires universitaires, en conversation avec Luc Vinet, recteur de l'Université de Montréal. Au cours de cet entretien, M. Vinet commente le contenu du projet de loi 38 et ses impacts, puis livre ses impressions sur les débats actuels entourant l'enjeu de la gouvernance universitaire au Québec.
Pour commencer, je vous demanderais, justement en tant que gestionnaire d'université, comment est-ce que vous expliquez que le milieu universitaire a réagi aussi fortement au projet de loi 38 et aussi au rapport des instituts qui ont été publiés en 2007?
L'idée de la gouvernance, c'est de se donner un cadre pour s'assurer que les universités fonctionnent dans les meilleures formes et donc soient les plus efficaces possibles et évite des écarts qui puissent entacher leur fonctionnement. Mais en même temps, ce qui est important, donc puisque la gouvernance joue un rôle dans l'efficacité des universités, une dimension de cette efficacité tient à leur histoire, à leur tradition, à leur personnalité. Alors, il faut trouver une bonne adéquation entre cette différenciation et un cadre général de gouvernance. Alors, il faut, et c'était ça le fond de la réaction des universités, de s'assurer qu'on n'est pas mis dans un carcan uniforme, unitaille, qui ne respecterait pas la diversité des universités, qui est importante dans leur fonctionnement.
En tant que recteur, en quoi est-ce que le projet de loi 38 est susceptible d'affecter votre façon de gérer l'université au quotidien?
Dans les démarches, à la fin de la journée, et pour l'Université de Montréal en particulier, je pense qu'on a eu des échanges avec le gouvernement, avec la ministre, et le projet de loi correspond à des pratiques déjà qu'on avait anticipées à l'Université de Montréal. Quand on pense à l'établissement de comités du conseil, quand on pense aux proportions de membres indépendants par rapport aux membres internes. Alors, ça ne va pas grandement affecter. Et en fait, moi, je pense qu'on est en train de trouver de bons accommodements à ce qui était, a priori, au départ, la crainte principale. La CREPUC va sous mes mémoires où elle indique sa préférence, a priori, au lieu d'avoir une loi, les universités auraient préféré qu'on fonctionne par des ententes bilatérales, par des ententes de partenariat, que ça se fasse au cas par cas. Mais de manière pragmatique, là, je pense que les échanges ont été fructueux, se sont faits avec ouverture et de l'eau a été mise dans le vin. Et on a préservé les grands principes auxquels tout le monde souscrit. Et dans l'implantation de la loi, moi, je n'ai pas de préoccupation majeure. Je pense qu'on se dirige vers quelque chose qui est adéquat, encadrant, mais qui laissera justement suffisamment de place à la diversité et à l'expression des personnalités de chacune des institutions.
Donc, il y a vraiment une réelle volonté d'uniformisation dans ce projet de loi-là. Vous dites donc qu'on considère suffisamment les différences, ou les différences de cadre juridique, ou les différences de valeurs entre les universités au Québec.
Oui, bien, pour me faire comprendre, c'est ça, c'est qu'après, en partant, et c'est ce qui nous inquiétait, si le cadre est très, très rigide, ça peut desservir l'objectif qu'on se donnait, qui est à savoir de rendre les universités plus efficaces parce que on coupe la différenciation et l'expression des traditions. Maintenant, il y a par ailleurs, alors il faut trouver le juste équilibre entre un carcan trop rigide et un cadre qui doit néanmoins retenir les grands principes auxquels tout le monde souscrit de la bonne gouvernance. Et je pense qu'on est arrivé à ça. Et par ailleurs, il y avait aussi une réalité différente entre les universités du réseau de l'UQ et les autres. Et là, il s'agissait encore là d'adapter toujours ces mêmes principes de bonne gouvernance auxquels tout le monde souscrit à des réalités un peu différentes. Et là encore, je pense qu'on se dirige vers un bon équilibre.
Une pierre d'achoppement qui a dérangé beaucoup de gens dans le milieu universitaire, c'est justement la question la présence de membres externes sur les conseils d'administration.
Oui.
On prévoit 60% dans le projet de loi. Vous, comment est-ce que vous le voyez, ça, cette question-là de la présence de membres indépendants sur les conseils d'administration?
Bon, je pense que, d'une part, pour l'Université de Montréal, on réalise déjà cette proportion-là.
Oui.
C'est toujours l'équilibre qui est de trouver le bon rapport. Il est important d'avoir des gens, et là, il y a eu des discussions, des gens de l'extérieur qui ont des expériences autres et qui peuvent jeter des regards critiques de manière constructive et apporter des expertises et poser des questions. Ça, c'est un enrichissement pour l'université et c'est important sur son conseil. C'est également important, et ça, là aussi, ça, ça a été compris, parce que les propositions initiales de proportion étaient plus élevées que ça. C'était 2/3, c'était 66%. Alors, il est également important dans des organisations d'enseignement supérieur que sont les universités, d'avoir des gens qui proviennent du milieu, qui comprennent, parce qu'il y a une réalité bien différente de celle du monde corporatif qui doit être reflétée par des professeurs, par des employés, par des étudiants.
Dans la législation, on trouve pas de disposition sur les mécanismes de sélection des recteurs. Et malgré que ça a été une recommandation, si ma mémoire est bonne, du rapport de l'IGOPP, est-ce que vous vous attendiez à une législation plus approfondie sur la question des mécanismes de sélection des recteurs dans le projet de loi?
Bien, écoutez, ça c'est une question qui est sensible et là, je pense que c'est sagesse aussi à ce moment-ci. De respecter. Il y a des universités pour lesquelles le poids de la tradition est très, très fort. D'aucuns pourraient souhaiter que ce soit autrement, mais il faut respecter ça et je pense que c'est ce qui est fait dans le projet de loi. C'est sage de le faire comme ça. L'évolution, s'il doit y en avoir une, il faut souhaiter qu'elle vienne de l'intérieur plutôt qu'elle soit imposée. Et le cadre, encore une fois, là, le cadre réglementaire doit être là pour ratifier ce qui fait consensus. Et les principes de bonne gouvernance font absolument consensus. Et on a trouvé un moyen terme. Et sur cette question de nomination directeur, c'était difficile. Alors, je pense que c'est ce qui explique que ça se retrouve tel qu'exprimé, où ça reste, ça laisse beaucoup de latitude aux différentes organisations. Mais encore là, il y a des principes qui sont exprimés relativement au choix du dirigeant, à savoir qu'il faut que ce soit qu'on trouve la meilleure personne possible, et que ça puisse permettre à la fois des personnes de l'interne comme de l'externe d'être sélectionnées.
Est-ce que selon vous, le projet de loi met aussi en évidence le fait qu'il subsiste une différence assez importante entre la gouvernance des universités au Québec et les universités dans le reste du Canada?
Est-elle si grande que ça? C'est différent. Moi, je pense que, d'une part, il y avait une mouvance générale, un mouvement au niveau du resserrement de la gouvernance et de l'implantation de meilleures pratiques. Faut toujours placer ça dans sa finalité. Hein. C'est que ça doit permettre aux universités de mieux fonctionner. Il y avait donc ce mouvement général, en Amérique du Nord en particulier. Et Je ne vois pas de différence, hormis peut-être dans la sélection du recteur, mais autrement, sur les autres points, de très, très grande différence. Maintenant, la plupart des universités ont des conseils de taille semblable, les comités statutaires existent un peu partout, et les principes de fonctionnement, de reddition de comptes s'uniformisent.
L'UQAM, est-ce qu'on peut voir l'UQAM comme un cas isolé ici ou c'est un élément déclencheur, c'est un élément au centre des récents débats sur la gouvernance universitaire au Québec?
Bien, la crise immobilière qu'il y a eu à l'UQAM a posé la question de la gouvernance et des responsabilités et des mécanismes de protection vis-à-vis de ces dérives-là. Il est certain. Ce que nous avons argué par ailleurs, c'est que il est important de réaliser que c'était un accident isolé,
oui.
Que c'est pas parce qu'il y a eu, et je ne jette pas de pierre à personne, mais une université délinquante ou qui a connu cette crise-là, qu'il faille imaginer que c'est le cas de toutes les autres. Au contraire, la très grande majorité, et je vais parler pour l'Université de Montréal, nous avons développé énormément de projets immobiliers pour quelque 300 millions de projets immobiliers au cours des 5-6 dernières années. Et tous ces projets-là ont été réalisés à l'intérieur des budgets et à l'intérieur des délais prévus. Alors, on a cité ça de manière répétée en exemple, mais la couverture médiatique, le côté spectaculaire, si vous passez l'expression, est préoccupant, à juste titre, de ce qui est arrivé à l'UQAM, a un peu éclaboussé tout le monde et a eu pour effet de donner l'impression que c'était une situation généralisée, alors qu'il faut, je pense que c'est important de préciser que c'est tout simple, juste le contraire. Donc, là aussi, il y avait un climat qui s'est rasséréné, mais qui prévalait au départ à l'introduction de ce projet de loi.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont dit, je fais surtout référence ici au syndicat de professeurs et aux étudiants, encore une fois, qui ont dit finalement que avec ces débats sur la gouvernance universitaire, on évite un débat sur le sous-financement des universités au Québec et c'est important qu'on recentre le débat à l'heure actuelle.
C'est ça. C'est-à-dire, la question de la gouvernance est une question importante, mais il faut pas monter ça en épingle. Je pense qu'on a eu des dialogues. Il fallait pas non plus la banaliser là. C'est important. Si on se donnait un mauvais cadre de gouvernance, on aurait pu handicaper nos universités et là contribuer à ne pas les rendre concurrentielles. Donc il fallait bien s'occuper de ça. Mais cela étant, l'enjeu fondamental pour les universités du Québec, c'est qu'elles aient les ressources pour être concurrentielles. Et il est très important de se pencher là-dessus. Alors, je ne sais pas s'il s'agirait de mettre les deux questions en opposition, mais il faut leur donner le poids qu'elles méritent et faire attention de ne pas simplement susciter des débats en n'ayant pas une priorisation des objectifs qu'on cherche à atteindre quand on regarde les différents problèmes. Je présume toujours de la bonne foi de tout le monde. Quand on examine certains problèmes, c'est parce qu'on veut les résoudre. Mais il y a des problèmes qui sont plus importants que d'autres et avec lesquels il faut commencer. Celui du financement en est un.
Voilà, c'est ce qui clôt cet entretien avec le recteur de l'Université de Montréal, M. Luc Vinet. Si vous souhaitez réagir aux propos de M. Vinet, nous vous invitons à envoyer vos commentaires à rédacteurweb@commercialaucc.ca ou encore sur notre site web au www.affairesuniversitaires.ca. En vous remerciant pour votre écoute.